Et vous écoutez France Culture. Ce film n'est qu'un alliage entre de la fumée et des miroirs. Christophe Gans, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Spécialité italienne, cinquième service ce soir dans Mauvais Genre, qui dira tout le bien qu'il faut penser d'opéra de Dario Argento, récemment paru au Chat qui fume, de la flamboyante Planète des Vampires de Mario Bava, édité en collector par la Rabia. Chronique également du retour des morts-vivants de Dan O'Bannon et des sorcières du bord du lac, bouquet final avec la somme consacrée à David Lachapelle par la édition Taschen, une chronique comme se doit de l'éminente Sixtine Audebert. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui fera ce soir l'actualité du DVD et de la photographie. J'ai parlé de David Lachapelle, c'est vrai que c'est votre première grande passion, Sixtine Audebert.
Tout à fait, religieusement, amoureusement, paillettement.
Glamoureusement.
Glamoureusement, exactement.
Voilà, la plaisanterie, Lachapelle Sixtine est évidemment à éviter, bien ce qu'on vient de faire. On vient somptueusement de l'éviter. En tout cas, Taschen a consacré à Lachapelle, ce qui est peut-être l'opéra Magnum.
Deux brévières, deux gigantesques in-folios dont nous parlerons tout à l'heure.
Absolument. Et avec vous, c'est vrai qu'à l'époque du livre dématérialisé, Taschen fait des livres comme on n'en avait pas vu depuis, je ne sais pas moi, Gutenberg, 16e ou 17e siècle, n'est-ce pas, monsieur Fazulot ?
Oh bah, je ne saurais vous contredire là-dessus.
Vous êtes un habitué des livres Taschen ?
Malheureusement, oui, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Et du coup, ce qui est assez pratique, parce qu'on peut se faire des colonnes et recréer une sorte d'architecture, en fait, à l'intérieur de sa propre architecture. Donc, c'est intéressant. Ouais.
Voilà, un autre débouché pour les livres de Bénédicte Taschen. Avec vous, on parlera plus spécialement de La Planète des Vampires, qui est quand même un événement qu'il faut saluer.
Bien sûr, une restauration qui avait été présentée à Cannes Classique et sur laquelle on va revenir grâce à ce magnifique Blu-ray.
Et un très beau bonus de Yves Montmeyer, très intéressant. Documentaire, n'est-ce pas, monsieur?
Ben absolument, ça en dira tout le bien de cette édition et du travail fait par l'Arabia avec M6 pour mettre en valeur ce titre.
Alors avec vous, on va plutôt entonner le grand air des sorcières de Macbeth. On va parler
avec
plutôt
l'opéra
de Dario Argento.
Oui, absolument.
Qu'on n'avait jamais eu bien, ni vraiment, ni rien du tout.
On l'a jamais eu vraiment bien en DVD en France. On a eu une VHS censurée.
Et puis
voilà. Alors on avait la version Blunderground. On a été chercher chez Arrow, chez B. Mais voilà, enfin une édition française avec des sous-titres de la version complète.
Voilà, et bien très bien, c'est aux éditions Le Chat qui fume. Quelques mots sur la prochaine édition 2018 du festival de Gérardmer.
Mais oui, ça commence dans
à quoi faut-il s'attendre
deux semaines,
pour donner envie à nos auditeurs de l'Est ou d'ailleurs.
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 10 films en compétition. Il y en a un qui va sortir dans la foulée, qui est le film Revenge de Caroline Forja. Les autres sont
dont on dit grand bien.
Donc
le nouveau grave peut-être.
Oui. Attends, ne lui mettons pas tout de suite une pression aussi grande. On sait que c'est un rap and revenge movie, donc vous pouvez compter sur moi pour faire un rapport complet. J'aurai le plaisir de présider le jury de la presse cette année encore, donc on va être à la manœuvre pour voir ça. Il faut signaler que nos amis Kate Forzani, les auteurs des formidables Amer, L'étrange couleur des larmes de ton cœur et Laissez bronzer les cadavres, présideront le jury court-métrage. Donc ce sera aussi une occasion.
Très bien, Kate Forzani qui sont menacés depuis un certain nombre d'années déjà d'une visite de mauvais genre.
En Belgique.
En Belgique, on ira un peu les taquiner là-bas, dans leur tanière, dans leur repère belge. Voilà, bien
ils sont un peu avec nous par la pensée, vu leur amour du cinéma italien, du giallo.
Et surtout de leur dernier film, Laissez bronzer les cadavres, qui est quand même, dès qu'il sortira en DVD, nous y reviendrons longuement. Merci madame, merci messieurs. Et bien maintenant, on ne va pas ouvrir un livre de chez Taschen, mais un volume tout aussi solennellement. C'est l'encyclopédie pratique des mauvais genres, avec vous Céline Duchesnet. Et c'est la lettre quoi ?
Bonsoir François. Eh bien, c'est la lettre L. L comme lapin.
Comme Lachapelle, non, lapin.
Elle comme lapin, Parole de lapin, un livre publié par Adrien Bosque.
J'ai découvert tard le magazine Playboy. Je ne dis pas que j'étais un jeune homme trop sage, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait en premier. Sinon, je l'ai découvert au moment où j'ai compris que s'y trouvait autre chose que les photos dénudées. Cette tendance à placer du journalisme de grande qualité dans le magazine, à publier des nouvelles littéraires, est vraiment l'apanage des années 50, 60, 70, 80, voire du magazine Playboy, et que les dernières années sont un peu chic et choc, et pas très heureux dans les choix. Mais restent parfois quelques audaces littéraires. La plus glorieuse en date, et dont on peut se caractériser en tant que Français, la publication in extenso d'un chapitre de Madame Bovary dans le magazine Playboy, je sais plus, je crois que c'était en 2004, au moment de la nouvelle traduction par Lydia Davis aux États-Unis. Ils avaient fait un coup, ils l'avaient même annoncé en une, au niveau du nombril de la jeune femme dénudée sur la couverture, annonçant le roman le plus sulfureux de tous les temps, un chapitre inédit de Madame Bovary. Il y a toujours eu ce côté du lapin qui est à la fois de naviguer en eau trouble et en même temps de donner gage d'une exigence littéraire. On a même parlé de revue littéraire à un moment.
Bien sûr, il faut dépasser le côté playmate, remettre les choses en contexte dans l'Amérique puritaine des années 50. On peut aussi se rappeler que la première à avoir posé pour Playboy est Marilyn Monroe. Elle figure sur la couverture du numéro 1. Le magazine est lancé par Hugh Hefner, sans qu'il croit trop d'ailleurs, en décembre 1953, et le succès sera phénoménal dès le premier numéro. Playboy, divertissement pour hommes, est né et a trouvé immédiatement son public. Hugh Hefner propose un nouveau concept pour les hommes hétérosexuels, du sexy, de l'érotisme, mais aussi des entretiens au très long cours.
Il essaye de promouvoir le jeune type des années 50, une nouvelle forme de sexualité. Clairement, oui, il est sur cette forme-là qui se détache de la vision uniquement puritaine de la famille nucléaire américaine, en gros. En même temps, il rattache ça aussi dans son esprit au dandysme du 19e. Donc il y a plusieurs formes de virilité qu'il va associer à son magazine, jusqu'à la forme, disons, la plus récente et la plus grossière, la plus machiste, qui est celle de Trump et autres, qui vont se trouver dans son magazine dans les années 80. Ces entretiens, en fait, traduisent ça et autre chose. Ce sont de très bons entretiens, très longs, une place laissée à la parole qu'on ne trouve nulle part ailleurs, bizarrement. Et en même temps, certains entretiens ne parlent pas du tout d'érotisme, ou quasi pas. Et d'autres sont très axés là-dessus. Je pense que celui de Mastroianni, par exemple, vraiment, ils vont le chercher pour ça. Ils vont le chercher au moment de la naissance du phénomène Mastroianni après la Dolce Vita. Ils veulent savoir, en gros, c'est quoi la virilité italienne. Et c'est quoi la vision des femmes. Mastroianni tombe en plein dans le truc, c'est-à-dire que c'est une caricature, Mastroianni. Et puis, il est là pour raconter le long déclin de l'homme européen. Enfin, c'est la vision de Mastroianni quand même dans cet article. Et la place que doit occuper la femme dans la société, qui est une place vraiment, pour lui, en tout cas, une place qui a plus trait au 19e qu'à un 20e siècle progressiste. On est vraiment dans une vision de régression de la société. Et chez Trump, là, on est dans les années 80, et ils vont chercher la virilité, alors déjà immobilière, c'est-à-dire ce côté winner, qu'il a toujours affirmé. Et on est, en fait, dans cette dérive américaine qu'on va voir en plein dans les années 90, qui est la partition atroce entre winner et loser. En gros, ça se joue là. Ça se joue dans le bling-bling, c'est tout ce qu'on va voir venir dans les années 90, début 2000, qui est vraiment maintenant une certaine vision de l'Amérique, qui gouverne en plus au destiné maintenant du monde et de l'Amérique, et qui déjà raconte comment une négociation doit se faire. C'est assez étonnant, parce qu'on dirait qu'il parle de la Corée quand il parle de certaines transactions immobilières dans l'article. Et puis en même temps, c'est l'affirmation que les présidents américains sont des losers, qui feraient bien mieux, mais que jamais lui ne sera président.
L'éditeur Adrien Bosque a décidé de réunir les meilleurs entretiens de Playboy dans un livre intitulé « Paroles de lapin » publié aux éditions du Sous-Sol. On y trouve Salman Rushdie, Stephen King, Jack Nicholson, Clint Eastwood, John Baez, Tim Burton pour ne citer que. Ça parle de sexualité, mais pas que, et c'est surtout l'occasion de lire des entretiens de longue durée, ce qui n'est pas si courant, disons-le.
Merci Céline pour cette entrée. Elle comme lapin, B comme bosque, donc de Paroles de lapin par aux éditions du Sous-Sol, une maison à qui l'on doit également des événements mauvais genre de l'an passé. C'est la sortie du Motel du Voyeur de Guy Talès, extraordinaire livre, témoignage sur ce motel qui avait été transformé en machine à voir par
histoire
son
vraie.
Propriétaire tenancier qu'on avait cité lors de nos 20 ans le 25 novembre dernier, monsieur Rouillet. C'était hier.
Oui, absolument. Et puis bon, je reviens sur ce livre, Paroles de lapin, parce qu'il y a quand même des entretiens qui sont mythiques. Hein. Il y a l'entretien de Kubrick et notamment un entretien de Polanski qui sont souvent cités et que désormais on a dans leur traduction française. Hein. C'est vraiment chouette.
Et puis cette idée de lire quelque chose sur 5, 6, 7 pages, un entretien comme ça au long cours, je trouve que c'est finalement trop rare.
C'est la revue positive qui fait ça, ma chère Céline, avec les cinéastes.
Mais où ai-je donc la tête?
Monsieur Fausto, vous êtes aussi un assidu Playboy.
Pour rebondir sur la rareté des entretiens, c'est vrai que quand on compulse des ouvrages de cinéma ou même des articles francophones, on voit souvent des notes de bas de page avec écrit « Entretien dans Playboy daté 1970 ». Bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir enfin les lire, ces entretiens.
Merci Sixtine, vous êtes une lectrice, non pas de Playboy, mais de ce...
Non, pas du tout.
De Gustave Flaubert, en tout cas.
Bien sûr, mais vous m'associez à une image très reluisante et très sérieuse. Hein.
Flaubert.
Donc, lectrice de Flaubert, oui.
Bon, entre Playboy et Gustave Flaubert, ma foi, vous avez votre parti, là.
Tout à fait. Hein,
ben, très bien.
Donc il y a les deux dans le même numéro.
Absolument. Paroles de lapin, c'est donc aux éditions du Sous-Sol. Et maintenant, on va céder la parole, non pas au lapin, mais au corbeau. Voilà, le cœur des sorcières à l'acte 1 du Macbeth de Verdi, sûrement l'opéra le plus hammer de l'histoire de l'art lyrique. L'orchestre est dirigé par Vittorio De Sabata. Voilà, je parlais d'un opéra Hammer, non pas à cause du livret, mais bien au contraire de l'atmosphère gothique qui plane sur tout cet opéra, et notamment sur l'introduction, puisqu'on pense souvent à Wells parlant de Macbeth avec son film étourdissant. Mais si on est un habitué du fantastique gothique anglais, on peut retrouver des frissons et des émotions comparables en écoutant donc ce Macbeth de Verdi que tout amateur de mauvais genre doit connaître, de même qu'il devra connaître la nonne sanglante de Charles Gounod qui va se rejouer à l'Opéra Comique au mois de juin, et nous vous en reparlerons parce que là c'est aussi une des grandes dates de l'opéra gothique et fantastique. En attendant, consacrons-nous toujours à l'opéra, mais à celui de Dario Argento, avec une édition au Chat qui fume, Monsieur Rouillet, assez remarquable.
Oui, remarquable parce qu'on
a le
Blu-ray, on a les deux DVD avec un wagon de supplément. Même si, bon, les wagons de supplément, ils sont parfois un peu...
Détachés.
Ils sont un peu détachés du film, ils se répètent, enfin... Mais il y a à boire et à manger, mais sur le lot, il y a quand même de la qualité, il y a quand même des informations très intéressantes. Le film est très particulier, parce que généralement...
On donne l'année ?
C'est 86-87. Habituellement... On a tendance à dire qu'après Phénoména en 85, ça commence à se gâter chez Argento. Et c'est vrai que le film n'est pas un total aboutissement, n'est pas un chef, mais c'est un des films les plus passionnants qu'il ait fait. C'est un film qui naît d'une frustration, c'est qu'il avait été convoqué, enfin on lui avait proposé de mettre en scène Rigoletto, à Masseria. Et lui, il a fait une proposition en faisant du héros un vampire. Et ça a été refusé.
Ça peut surprendre.
Et donc, à partir de là, il en a eu une grande frustration. Il s'est dit qu'il allait faire un opéra au cinéma et que sur cette Macbeth, il allait construire une histoire où il emprunte au fantôme de l'opéra, qu'il réalisera plus tard avec sa fille. Et donc, l'histoire d'opéra, c'est une jeune cantatrice qui se retrouve à remplacer... au pied levé, la diva.
Alors, c'est... propulsé contre un pare-choc de voiture, petit accident de la rue.
Voilà, à la suite d'une mésentente avec des corbeaux, pourrait-on dire. Alors, ce qui est très amusant, c'est si on est attentif à l'histoire, juste avant qu'elle soit appelée pour remplacer la diva, elle a un coup de fil. Elle a un coup de fil mystérieux, anonyme, qui lui annonce que ce soir, elle va avoir son heure de gloire. C'est évidemment une manière de transposer les sorcières de Macbeth. C'est-à-dire que, mine de rien, il ne le dit jamais, Argento, mais il fait une transposition quand même de l'opéra à l'intérieur même de son scénario. Voilà. Et donc, ça va être un triomphe, cette représentation, et le soir même, elle va avoir des problèmes avec un tueur qui la kidnappe avec son petit copain, la force à voir l'assassinat du petit copain, et à partir de là, on a une structure un peu giallo, c'est-à-dire qu'autour d'elle, les gens tombent comme des mouches, et on va utiliser l'opéra pour démasquer le coupable. Ce dont on se gardera bien de vous dire qui. Mais le film est assez fou pour le travail qu'il fait. On a beaucoup cité à l'époque le plan vu par les corbeaux. Pour ça, et ça c'est très détaillé dans les bonus du DVD, Argento avait imaginé un système à la place du lustre, parce qu'il a tourné dans l'opéra de Parme, parce que la Scala de Milan a refusé.
Oui.
Mais l'opéra de Parme, qui est un théâtre génial, enfin qui évoque la Scala par bien des aspects.
Aussi somptueux.
Il a remplacé le lustre par une espèce de grue, et il y avait deux manches à la grue, et il pouvait faire les mouvements de caméra qu'il voulait. Et il a utilisé de vrais corbeaux. Donc il y a un travail fou, et en fait, dans ce film, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a deux choses. Au-delà de l'histoire qui est un peu incohérente par moment, avec un ventre mou au milieu.
Enfin, on a l'habitude.
On a l'habitude, et c'est un peu une caricature des faiblesses chez Argento. Mais à côté de ça, il y a deux choses passionnantes, c'est la réflexion sur la vision. Donc ça commence avec un œil de
corbeau. Le cœur du film.
Ça continue avec cette idée que le tueur force... l'héroïne a regardé, il met un système un peu comme les écarteurs de paupières d'Alex dans Orange Mécanique. C'est du sparadrap avec des aiguilles pour tenir les paupières. Et si vous baissez les paupières, crac,
vous
les empalez. Hein. Donc il y a une obligation de voir, et en même temps, il y a cet amour de l'opéra. C'est pour ça que c'est très important d'avoir commencé cette séquence sur le film avec un extrait de Macbeth, mais on entend d'autres extraits que Macbeth dans le film.
Hein. On entend Casta Diva Bellini,
on entend Butterfly, et à chaque fois, si on connaît les opéras, on s'aperçoit que ça renvoie à des choses dans l'histoire. C'est-à-dire que Argento est un fou d'opéra, et il le dit à travers ce film. Et ça, je trouve que c'est très très émouvant.
Fausto Fazulo.
Oui, puis c'est vrai qu'il le dit dans les bonus. Pour lui, c'est vraiment le film de la synthèse. Ça compile tout ce qu'il aime et tout ce qu'il connaît en termes de cinéma. Je pense que c'est en termes de mise en scène son film le plus ambitieux. C'est vrai que quand on revoit aujourd'hui la scène de vue subjective des corbeaux, on se dit que tiens, c'est tout à fait possible de nos jours de tourner ça avec un drone.
Et là, le bonus nous en propose. Absolument. Un making-of, et on voit la machinerie qui avait été mise en place, quasi médiévale, pour arriver à retrouver la vision du Korbac.
Bien sûr.
C'est tout à fait très très impressionnant. Ah, Derrick,
le making-of fait 44 minutes, c'est un making-of d'époque qui est muet, en fait, enfin, donc non traduit. On voit vraiment Argento au travail.
Avec les gants.
C'est très très bon, ça. Hein.
Ce sont vraiment les meilleurs making-of. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe concernant justement l'image fondatrice du film, hein, à savoir les yeux de Christina Marsiglia qui sont écarquillés avec des aiguilles en dessous, donc fondatrice puisque c'est effectivement l'une des images qu'on retrouve sur l'affiche mythique du long métrage. En fait, l'idée à Dario Argento lui est venue de l'observation des spectateurs devant ces films qui fermaient constamment les yeux en fait devant les scènes gore, et lui il en avait marre en fait de voir les gens se masquer le regard ou fermer les yeux. Donc il s'est dit tiens, je vais évoquer en fait ce refus de voir mes images avec un personnage féminin qui serait contraint de regarder les scènes de meurtre.
J'avais une petite théorie là-dessus sur le fait que justement on était obligé de voir. C'était l'idée que un des éléments déterminants du dialogue, c'était quand même la censure, et justement la censure, ne pas voir la sexualité derrière cette violence qui s'adresse sur le corps féminin. Et comme là c'est la fin, on est quand même en 86-87, les modalités de représentation en termes de culture ont changé. C'est pour moi une espèce de retour ironique sur ce ressort du dialogue qui consistait à masquer justement.
Sauf que Sixtine ne savait pas si bien dire, c'est que le film a été très coupé en Italie. Le film a été opéra, le film a été très censuré en Italie. Et puis par ailleurs, l'autre élément, c'est que au moment où il le fait, Argento est aussi très paniqué par le sida. Hein, c'est le moment où on commence vraiment à parler de sida. Il y a des gens qui sont malades autour de lui, et du coup, comme ça correspond aussi à des problèmes personnels dans sa vie affective, il en déduit que l'amour devient impossible. Et ça devient un des motifs du film qui est très intéressant. C'est-à-dire que la première scène d'amour avant le meurtre, la fille dit tout de suite au type, tu sais, moi je suis nul, hein, je suis nul au lit, je suis à moitié frigide. Et constamment, les relations amoureuses dans le film sont contrariées. Et à chaque fois que enfin quelque chose pourrait se passer, y a un meurtre. Et l'assassin préfère avoir des rituels sadomaso avec les femmes plutôt que de les aimer.
Questa mano non potrebbe l'oceano, queste mani a me lavar.
Le mani all'ordine anch'io, ma cosa spruzza il mondo?
No, Giosta, non riesce a concentrare. La prego, maestro, mi scusi, ma...
Riprendiamo dal numero 37.
Le mani all'ordine anch'io, lo spruzzo e monte su, la franchezza tra i figlio.
Guardi tu, raddoppia il suon.
Vieni, io provo ogni sospetto, riprendo l'uccisore, dovete far corpo il vento.
Oh mio Dio, nonno, un mormesson. Maestro, per favore, riprendiamo che viene altrove.
Voilà, bande son d'opéra d'Argento, gros succès, n'est-ce pas, chez nos amis en cabine, parce qu'effectivement, c'est une œuvre d'art contemporaine où on a une véritable interprétation, représentation du Macbeth de Verdi greffée dessus avec des coins,
des croassements
de corbeaux.
Bah, d'ailleurs, c'est le début du film. La cantatrice refuse, elle dit, je veux pas travailler avec des corbeaux. Et la grande idée d'Argento, c'est d'avoir utilisé les corbeaux. Alors, le dresseur lui avait dit, attention, les corbeaux, c'est super dur de travailler avec eux parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de les dresser. Alors, du coup, ils en avaient apporté des cartons et des cartons entiers.
Des cartons de corbeaux.
Bien trop. Alors, dans les bonus, vous découvrirez que certains corbeaux un peu malins sont restés dans le théâtre.
Se sont
cachés, se sont reproduits. Et alors, les autres, la grande quantité a été relâchée dans les Dolomites. Donc aucun corbeau n'a été blessé. Mais alors, il y a une séquence formidable, alors, parce que les corbeaux sont toujours à relier avec l'œil. C'est-à-dire que le premier plan, c'est l'œil du corbeau. Il y a
C'est l'animal des gibets qui va picorer et se nourrir avec l'œil du pendu. Donc il y a une espèce d'alliance.
Et l'œil du tueur est picoré. C'est-à-dire que c'est le corbeau qui va désigner à la police le tueur. C'est une mise en scène de Macbeth assez formidable. Et du coup, il y a ce plan incroyable où l'œil a été arraché et il s'agit de montrer en gros plan le corbeau qui mange l'œil. Alors, on nous explique que, évidemment, c'est un œil de porc. C'est pas l'œil de l'acteur. Mais il y a eu plusieurs... Ils avaient utilisé
plusieurs
lieux de porc et ils avaient affamé les corbeaux pour qu'ils aient envie de manger et de picorer en gros plan. Là, C'est quand même assez inouï de voir ce genre de voir ce genre d'image à l'écran.
Ce grand fantasme scopique, comme on dit, de l'œil qui est à la fois et l'objet.
Et l'œil se retrouve encore. Ça, c'est très intéressant, le motif de l'œil. Je vous le disais, c'est un des thèmes principaux du film, qui renvoie évidemment au cinéma d'Argento. Il y a toujours l'idée de la vision du détail qu'on a mal vu. Et là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est pas l'intrigue ne reporte pas sur un détail du crime que on aurait mal vu, puisqu'on oblige cette pauvre Christine Marcillac à tout voir. Et en voyant tout, elle ne voit rien. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas, elle ne voit pas qui est le tueur. Et celle qui voit, c'est Daria Nicolodi, qui est l'ancienne femme de Dario Argento, qui, parce qu'elle a trop vu, c'est la femme qui en savait trop. Elle a l'œil dans l'œilleton. Et je vous conseille pas de faire ça.
Quelle scène incroyable.
Parce qu'il lui arrive un truc vraiment, et la scène est délirante. La scène est délirante, c'est une des plus belles scènes du film. C'est-à-dire que ce film, on y est très attaché par ses grands moments de lyrisme et par ses grandes trouvailles visuelles et par la relation qui nous pousse, nous spectateurs, avec le cinéma d'Argento. C'est pas son film le plus parfait, mais je pense, comme Fausto, que c'est sans doute son film le plus extravagamment et le plus brillamment mis en scène.
Moi, je pense qu'il y a une vraie dimension méta et du coup très festive, vraiment.
Ah, absolument.
Eh bien, tous à la fête. Donc, Dario Argento, Opéra, un collector Blu-ray et DVD. C'est aux éditions Le Chat qui fume. Nous allons prendre un peu d'altitude, mais si on va aller même bien au-delà du vol du corbeau dans l'espace.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà la BO de Cosmos 99 signée par Ennio Morricone, un choix de l'Europe Olray pour ce Mauvais Genre gothique et fantastique en ce samedi. Alors, deuxième retour en fanfare d'un autre classique, mais alors cette fois du cinéma de science-fiction italien, Mario Bava, La planète des vampires, Terrore nello spazio. Eh oui, monsieur Rouillet. C'est donc une publication, l'Arabia M6 Vidéo.
Oui, absolument. Et c'est la première fois qu'un film de Mario Bava sort en Blu-ray en France. Ça faut quand même le mentionner, puisque c'est pas quelqu'un.
Alors qu'à l'étranger, c'était le cas depuis longtemps.
Alors qu'à l'étranger, c'est la fête tous les jours, mais voilà. C'est vrai que chez nous, ça a été un peu compliqué. Et du coup, les fans de Mario Bava ont dû souvent se tourner soit du côté de l'Angleterre, soit de l'Italie, soit des États-Unis pour trouver de belles éditions. Là, il s'avère qu'on a peut-être l'une des plus belles au monde, qui plus est accompagnée éditorialement parlant de bonus vraiment de qualité. Et le film. Effectivement, on avait connu une exploitation en DVD, mais aujourd'hui très très rare. C'était notre ami Jean-Pierre Dionnet qui l'avait sorti chez Studio Canal,
dans
Cinéma de Quartier. Donc pendant même très longtemps, en fait, on avait une VHS française où on avait pu enregistrer le film quand il était diffusé sur Canal+. Donc ça a été un précieux pour de nombreux cinéphiles.
Il y a eu le DVD Artus après, entre-temps.
Il y a eu le DVD Artus entre-temps, c'est
dont
vrai.
Dont on avait, je crois, parlé.
Bien sûr.
À l'époque.
Et puis surtout, il faut revenir sur la présentation en grande pompe à Cannes Classique du film. C'était il y a 2 ans, introduit par Nicolas Winding Refn.
Ouais, il faut dire que la restauration a été le fait de plusieurs,
tout à
plusieurs
fait.
Forces, plusieurs agents se sont unis pour restaurer le film.
Dont deux personnes, en fait, qui sont totalement connectées, et ça on le sait peut-être pas, c'est effectivement Nicolas Winding Refn et le producteur du film, Fulvio Lucisano, donc producteur de l'époque, qui était un nabab italien dans toute sa splendeur, qu'on voit d'ailleurs dans les bonus.
Ils étaient tous les deux là à Cannes. On y était, Fausto, ouais, ensemble, à cette fameuse soirée à Cannes Classique. C'était extraordinaire.
C'était probablement la projection la plus geek de tout le festival de Cannes, puisqu'il y avait tout ce que pouvait compter sur la croisette de fans de cinéma d'exploitation, bis et j'en passe,
ils
qui étaient réunis dans la salle.
Ils avaient l'idée de mettre ça à 22h30, donc on avait pu acquitter nos devoirs auprès de la compétition officielle. Et Et aller à la soirée geek.
Absolument. Et Fulvio Lucisano, le producteur en fait de La Planète des Vampires, il s'avère que c'est aussi lui le distributeur des films de Nicolas Winding Refn depuis Drive. Donc il y a une vraie connexion entre les deux. Voilà. Ce qu'il faut dire en fait, c'est que Mario Bava, son nom revient dans la bouche des cinéphiles les plus célèbres depuis des années et des années, notamment Martin Scorsese. On a au début du livret qui accompagne La Planète des Vampires une série de citations qui vont de Guillermo del Toro, Martin Scorsese, Nicolas Winding Refn, Quentin Tarantino. Donc il y a vraiment tout le monde. Avec des points de vue qui sont toujours très très intéressants. Chacun justement y va de sa remarque concernant la puissance plastique du cinéma de Mario Bava. Alors, pardon.
Tim Burton, Bava avait un sens du design qui passait directement de votre esprit à votre âme. Ça veut dire qu'il y a l'âme et l'esprit.
Et c'est exactement ça, puisque en fait, quand on se penche sur La Planète des Vampires, on n'en retient pas vraiment le scénario. À vrai dire, on s'en fout un peu. Même, on n'en retient pas vraiment les interprètes. On s'en fout un peu, et même eux s'en foutent, je pense. Il faut savoir que Barry Sullivan, l'acteur principal du film, a été propulsé sur le projet un peu malgré lui.
Barry Sullivan, c'est 40 tueurs, les ensorcelés. Voilà.
On voit le choc des mondes, quoi.
Hein. Et il croyait qu'on se moquait de lui quand il est arrivé, qu'il a vu le budget ridicule des maquettes qui faisaient 50 cm et que surtout il était dirigé par Bava comme un accessoire. Parce que pour que ça marche, évidemment, il y avait un système de miroirs, de fumée, etc. Les acteurs ne pouvaient pas se balader n'importe comment sur le plateau. Sinon, l'effet de perspective était complètement manqué. Donc, il était vraiment dirigé et il n'avait pas l'habitude de ça. Même s'il y a des scotchs à Hollywood, là, ça lui semblait. Et c'est quand il a été se doubler en post-synchro qu'il a dit « Mais c'est un film aussi bon que ceux de la MGM. »
Oui, notamment, il a été estomaqué en fait par les couleurs. C'est-à-dire que lui ne s'attendait pas en fait à tourner dans un film en science-fiction avec des couleurs aussi resplendissantes. Et c'est vrai que le côté accessoire, acteur accessoire, ça participe complètement en fait du projet de Bava. C'est-à-dire que quand on regarde un film comme La Planète des Vampires, on a vraiment l'impression d'assister à une sorte de jeu dans une maison de poupée spatiale, mm-hmm. avec ces petits pantins qui se déplacent dans un environnement qui est délimité et qui est complètement en fait sous la coupe du metteur en scène tout-puissant, à savoir Mario Bava. Et c'est quelque chose qui va décliner sous des formes thématiques, même dans des longs métrages suivants, qui n'ont pas forcément la même force picturale, mais qui auront toujours ce côté acteur pantin, avec cette idée aussi de jeu de massacre. Puisque finalement, si on devait résumer le film, c'est un jeu de massacre spatial.
Exactement.
Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut noter, et que Christophe Gans pointe brillamment dans son analyse, dans le documentaire Planète Bava de Yves Montmeyer, qui figure en bonus, c'est qu'on est plus proche finalement du zombie que du vampire. Et il cite en exemple la scène où les spationautes en fait sortent de terre, et là effectivement on a affaire à un pur film de zombie gothique.
Let's prepare for a landing, Brad.
Okay.
In a 40G gravity atmosphere, strange thing happens to man's body and mind. Barry Sullivan and Norma Bengel take you into the most fantastic science fiction adventure ever filmed.
Emergency! Emergency! Conditions desperate. Little chance of survival. Help us.
Mark, look!
What have you got?
The galleot.
Bert, get me a fix on this right now. Wes, Brad, controls.
Voilà, le trailer donc de La Planète des Vampires de Mario Bava, somptueusement édité donc par l'Arabia et M6 Vidéo.
Je voudrais quand même ajouter mon petit grain de sel dans cette...
Salé, mon ami, salé.
Dans cette histoire, parce que ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un film du cœur. C'est-à-dire que Mario Bava travaille avec son père.
Oui, alors justement, ce que j'allais dire, Christophe Gans nous apprend que c'est le clan Bava qui se situe du début à la fin du projet.
Parce que c'est le premier film où Bava travaille avec son fils Lamberto, qui est deuxième assistant sur le film, et puis il y a le père qui a notamment fait les maquettes. Et
le père qui est un lieu de mémoire du cinéma fantastique italien.
Eugenio. Et c'est comme ça d'ailleurs que Mario a eu envie, c'est en voyant son père qui faisait les trucages de tout le cinéma italien, de toute l'histoire du cinéma italien, quasiment depuis le muet, qu'il a grandi dans cet univers-là, qu'il a eu envie, lui aussi, de... Et par exemple, les vaisseaux, on nous raconte ça dans le bonus, est construit avec un tube d'aspirateur. Chiné aux puces, et l'atterrissage sur la planète a été filmé dans une cuvette transparente hein, à travers, avec de l'eau et du sable à la fin qui se met à gonfler, on a l'impression que c'est la poussière. Alors, évidemment, Bavard raconte dans un entretien célèbre que il avait pas d'argent, donc le décor était nu et qu'il a été piqué de rochers dans un studio voisin d'un film mythologique d'Hercule. Bon, en fait, il y a plus que deux rochers. Mais c'est vrai que l'esthétique du film qu'on admire, elle vient aussi de là. C'est-à-dire que c'est des rochers, mais des rochers en carton, et dans lesquels il a installé des loupiottes à l'intérieur. Il a piqué la collection de minéraux de son fils. il n'a pas piqué, il l'a emprunté en disant « Viens, et comme ça, on va faire des tas de trucs sur cette planète. » Et puis, il y a des idées somptueuses. Cette idée que citait Fausto, là, repris par Christophe Gans, que on voit les morts qui se lèvent, et en fait, mais c'est comme dans une chrysalide, parce qu'ils ont des sueurs.
Un sueur en plastique.
En plastique! Et donc, ça coûte rien, et en même temps, c'est d'une beauté folle. Et alors, le film, faut quand même le dire, il vient de quelque part, il vient aussi du film de Don Siegel, L'invasion des profanateurs de sépulture. Hein. Ça, c'est pas trop dit dans les bonus, mais
Justement, Fausto, il y a quelque chose qui est de plus en plus évident à mesure qu'on revoit le film, c'est la matrice d'Alien.
Oui, complètement, ouais. Et ça, c'était un élément que les cercles d'initiés savaient depuis très très longtemps.
Et même dans la forme du vaisseau qu'ils trouvent.
Bien sûr.
C'est une forme en croissant.
Bien sûr. Le squelette géant.
Le squelette calcifié. Voilà.
Le squelette, on est effectivement, on va dire que le socle scénaristique d'Alien est quasiment identique à celui de La planète des vampires. Absolument.
Et qui n'était pas dans la nouvelle d'origine, parce que Bava s'inspire d'une nouvelle, hein, qui s'appelle Une nuit de 21 heures, où il y a cette idée des astronautes qui sont morts et qui redeviennent vivants, mais il n'y avait pas cette imagerie-là. C'est lui qui l'invente.
Oui, c'est lui qui l'invente. Et comme d'habitude, avec les films de genre italien, il y a pléthore de scénaristes. Je crois qu'ils sont 6 sur le projet. Donc, Bava, lui, a fait quelques aménagements avec
et quand on
avec
fait tout le scénario, on est un peu sidéré.
Alors ça, c'est toujours le grand truc avec les films avec les films populaires italiens, c'est quand on voit effectivement la liste des scénaristes, on est
cartes,
étonnant de ce qu'ils ont accouché en définitive. Mais encore une fois, toujours chez Bava, le scénario est un prétexte à l'expérimentation et au rêve.
Exactement.
Et il y a une phrase de Martin Scorsese qui résume complètement ce qu'est le cinéma de Mario Bava. Il parle de rêve collectif, et moi je pense qu'on pourrait même dire que c'est une hallucination collective.
Sixtine.
Ah oui, c'est très séduisant en plus toutes ces couleurs pop et c'est vraiment cette esthétique aussi de la consommation finalement de ces années 70-80 très montante qu'on retrouve dans les films populaires italiens et qu'on voit aussi dans assez diabolique, mais je sais pas s'il est avant ou après.
Ouais,
mais qui est aussi très comme ça un peu décorateur et pas décorateur, il faut le prendre dans un sens amélioratif.
Ouais, c'est ça, c'est
mode
absolument.
Et toute cette oui.
Et tu fais bien de parler de ça puisque il y a une interview en fait toujours dans le documentaire Planète Bava de Yves Montmeilleur du costumier de l'époque, et c'est absolument passionnant.
C'est son premier costume,
ouais.
Hein. Donc ils sont tout cuir, ouais. et il dit qu'il s'est inspiré des costumes du Reich.
Alors
ouais.
Il ose pas le dire, c'est drôle,
il
ose pas
le
dire. On a compris.
Ouais, on le voit
les,
bien.
Les et insignes étant des runes, trois runes à voilà.
Et après ça quand même, on peut penser que Darth Vader est pas si loin.
Voilà. Complètement.
Il y a ça. Et de même, dans les références, c'est Gans qui pointe ça de manière très habile. La brume, parce qu'il y a beaucoup de brume, parce que c'était un moyen habile de cacher la pauvreté du décor. La brume, c'est un peu l'esprit des morts et c'est quasiment Fogg. Ça annonce Fogg de Carpenter.
Voilà, à la source de Alien, de Fogg de Carpenter et de troisième. Dont vous parliez il y a une minute.
L'invasion des profanateurs de sépulture, mais qui était avant.
Don Siegel. Voilà, La planète des vampires de Mario Bava, redécouvrir chez M6 Vidéo. Actualité du DVD fantastique et horrifique sans ce samedi d'un mauvais genre sur France Culture. On continue à faire fumer le chat, si j'ose dire, avec vous, monsieur Fausto Fazulo.
Le retour
des morts vivants.
Bon, la transition est parfaite, puisqu'on parlait d'Alien.
Dan O'Bannon,
scénariste d'Alien.
Tout est sous contrôle sur ce plateau, vous l'avez noté.
Parfaitement pensé. Donc, Dan O'Bannon, fan de la planète des vampires, scénariste de Dark Star de John Carpenter, scénariste de Alien, le 8e passager, scénariste de Life Force. Bref, un scénariste qui compte. Son premier film, donc Le Retour des Morts Vivants, qui sort enfin en Blu-ray, c'est un film, j'aime pas le mot, mais culte, hein, lâchons-le, que les fans de cinéma d'horreur connaissent pour avoir usé leur VHS. Et c'est un film qui est lié à plein de talents qui nous ont quittés récemment. C'est un film qui est évidemment lié à George Romero, de par l'un des premiers scénaristes du film qui n'était autre que John Russo, à savoir le scénariste de La Nuit des Morts Vivants. C'est un film aussi, Le Retour des Morts Vivants de Dan O'Bannon, qui était lié à Toby Hooper, puisque c'était lui, le premier réalisateur qui était rattaché au projet. Donc on voit d'ailleurs dans l'un des bonus du film une affiche d'époque, un flyer avant même que le film soit tourné, avec le nom de Toby Hooper et de Dan O'Bannon. Ça, c'est un document assez précieux. Donc c'est assez intéressant de se plonger dans les bonus de ce film, puisque, et un peu triste aussi, puisqu'on voit tous les grands noms du cinéma fantastique américain qui nous ont quittés assez récemment, on les voit ici convoqués. Et pour résumer très très vite le film, et peut-être aussi y voir une connexion avec la connexion politique avec le cinéma de George Romero, c'est que là, on a affaire à ce qui ressemble de prime abord à une sorte de comédie horrifique zombie, mais le film est bien plus compliqué et triste que ça, qui raconte en fait comment un gaz militaire s'échappe et
accidentellement
évidemment, et finit par se libérer en fait de l'atmosphère suite à une crémation d'un corps contaminé. La libération dans l'atmosphère se fait à travers la pluie qui tombe sur un cimetière. Je vous laisse imaginer la suite. L'invasion est proche et elle commence. Donc voilà pour résumer Le Retour des Morts Vivants. Et il y a ce qui est intéressant avec ce film, c'est vrai qu'on est un peu aujourd'hui fatigué en fait de la mythologie zombie qui est complètement essorée et on pense avoir tout vu. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Et ce qui est intéressant avec ce type de film, et surtout avec Le Retour des Morts Vivants, c'est qu'on a vraiment des scènes qu'on a vues nulle part ailleurs. Notamment une scène d'interrogatoire de zombies qui est magnifique et qui est extrêmement triste.
Qui est la meilleure scène du film. Ça m'a fait pleurer.
La première fois que je pleure,
un film de zombies. Parce qu'il n'y a pas tout... C'est ça qui est terrible. C'est que c'est un corps de femme qui est amputé de moitié et qui n'est même pas au-delà de l'amputation, qui est dans un état de putréfaction totale. Et alors,
elle est attachée
parce que la vivacité est telle qu'il faut vraiment maîtriser à fond même les restes du zombie, et ils sont tous penchés sur elle et elle parle de la douleur et de sa souffrance de ne pas être morte. Et là on voit cette espèce de morceau de corps qui se tend, une espèce d'effort un peu tétanique, comme d'agonisant, en train de parler de la douleur. J'avoue que là c'était totalement imprévu et c'est extrêmement puissant.
Oui, complètement. Et le film est vraiment constellé de ce type de rupture de ton où on est partagé effectivement entre des scènes un petit peu rigolardes avec ce groupe de punk et puis avec la magnifique Lena Quigley qui se déshabille dans le cimetière. C'est l'une des scènes pour lesquelles les cinéphiles plébiscitent souvent le film.
Avec toute l'astuce de comment ils ont fait pour pas montrer son sexe alors qu'elle est complètement nue et filmée frontalement.
Alors là, comment ils ont fait, monsieur?
Je vois, Philippe, que tu as envie d'en parler.
Au
départ, ils l'ont filmé et puis après, Dan O'Bannon s'est dit, il y a trop de poils et donc ça va pas être possible. Donc ils ont été prendre l'actrice et ils l'ont rasée et après ils se sont dit, ils lui ont demandé, mais c'est affreux, on voit tout, c'est pas possible non plus. Donc ils ont été reprendre l'actrice et elle explique ça très bien. Ils lui ont mis dans le slip une sorte de matière pour créer un moule en plastique, et en fait elle est comme une poupée Barbie, c'est-à-dire que il n'y a rien, et donc on a cette image qui est en elle-même très fantastique d'une jeune femme avant qu'elle soit zombifiée, où elle est nue et pourtant elle n'a pas de sexe.
Oui, puis ce personnage de trash en plus, il y a le personnage incarné par Lena Quigley. C'est vrai que je parlais des ruptures de ton dans le film, mais il y a des choses extrêmement bizarres entre effectivement le commentaire politique, des scènes drôles, des scènes beaucoup plus dramatiques comme celle de l'interrogatoire, et même des scènes un peu étranges, perverses, comme le moment où le personnage de trash évoque son fantasme quand elle arrive dans le cimetière avec tous ses copains punk, où elle dit, moi mon fantasme ce serait de me faire dévorer par de vieux pervers. Et c'est vrai que sorti comme ça, un peu de but en blanc dans un film d'horreur, c'est assez étonnant. Et vraiment le film fonctionne sur cette espèce de dualité entre un ton très très grave et un ton plus léger et caustique, ce qui en fait un long métrage assez unique en fait.
Et là c'est la première fois qu'on l'a en Blu-ray en France.
Ah oui, complètement.
Dans une copie impeccable, parce que moi j'avais une VHS bien, bien moche et un DVD pas terrible non plus, hein. Je sais même pas s'il était entier. Là, c'est l'intérêt des éditeurs, des bonnes maisons, hein. Je veux dire, on parle souvent ici de Wildside, de Carlotta, etc. Bon, ben là, le chat qui fume, c'est pareil. On sait qu'ils vont au besoin retarder un peu leur publication pour être sûr d'avoir la bonne copie, avec un transfert toujours impeccable. C'est le meilleur moyen de voir le film aujourd'hui.
C'est le meilleur moyen, et puis surtout, ça nous permet vraiment de le réévaluer pour ceux qui en avaient un souvenir encore lointain.
C'est 85, hein,
c'est 85, ouais, et de voir que c'est vraiment l'un des meilleurs films de zombies jamais réalisés.
Donc on le positionne comment dans l'histoire du film de zombies?
C'est un film qui est clairement post-Romero et c'est peut-être une sorte
de... C'est la première grande comédie de zombies, ouais, c'est le premier grand passage
parce que
de zombies.
Le ton est assez plaisant quand même.
Complètement, c'est très enlevé, le film a quand même un rythme assez implacable. Hein. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il
non,
ne,
on
il
a mis
jamais.
L'accent sur des scènes un peu tragiques, mais c'est avant tout une comédie, c'est un pastiche. Hein.
Avec une fin, on ne dira pas effectivement son contenu, mais qui est peut-être l'une des plus drôles que le cinéma zombie.
Mais comme le bal des vampires est malgré sa fin, etc. Donc on est d'accord que... On pousse tellement loin l'humour noir qu'on peut aller très loin dans le drame.
Et puis aujourd'hui, au regard de ce qui se passe militairement dans le monde, je pense que le film arbore une densité assez inédite. Ouais.
Le retour des morts vivants de Dan O'Bannon, c'est aux éditions Le Chat qui fume. On continue avec vous, monsieur Philippe.
Oui.
Les sorcières au bord du lac.
Du bord du lac, publication des éditions Montparnasse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé à mauvais genre des éditions Montparnasse. On a parlé par le passé.
Ça fait même très très longtemps.
Non, mais parce qu'ils avaient fait des belles éditions Tourneur, on a parlé de la RKO, etc. Bon. Et depuis quelque temps, ils font moins de cinéma, faut le dire, et encore moins de cinéma de genre. Et donc là, c'est une très très belle surprise de les voir s'intéresser à ce film que moi, je dois l'avouer, je connaissais que de réputation. Hein, c'est un film de Tonino Cervi, donc le fils de Gino Cervi, la Pépone. Et Tonino Cervi, il a été à la fois producteur et réalisateur. Ça, c'est son deuxième film en 1970. Son premier film, c'était un western, on s'étonnera pas, un spaghetti qui était pas mal du tout, qui s'appelait Les Cinq Gâchettes d'Or avec Bud Spencer. Alors, dans ce film, il y a qui? Il y a Ray Lovelock qui joue l'espèce de hippie en moto qui l'explique dans le film parce qu'on est en 70, donc il y a cette espèce de naïveté. Il dit, moi, je prends ma moto pour traquer la liberté, etc. Et en fait, il est quand même bien gentil et en voulant aider un type, il va se retrouver il veut lui aider à changer sa roue en pleine nuit, il va se retrouver dans une sorte d'imbroglio et coincé dans un chalet au bord du lac. Et alors il squatte là et au petit matin, il y a une fille qui est belle comme un cœur qui vient le réveiller. Et cette fille, on la connaît, puisque c'est Heidi Politoff. Alors vous allez me dire, mais qui est Heidi Politoff? Mais c'est la collectionneuse d'Eric Rohmer. C'est la collectionneuse d'Eric Rohmer, hein, qui se baladait à Heidi. Vous vous souvenez de cette ouverture en 67? Elle est en bikini sur la plage. Et là, elle a une espèce de robe très années 70. Et c'est le plus doux des réveils. Ben, elle lui dit, je crois pas que c'est pas une bonne idée de rester. Et le temps qu'il fasse des amabilités, les deux copines de la dite Heidi Politoff surgissent, et ses deux copines, c'est Sylvia Monti, hein, qu'on connaît pour Le Venin de la Peur et quelques autres joyeusetés du giallo, et puis Ida Galli, qu'on connaît aussi sous le nom d'Evelyn Stewart. Donc encore une prêtresse de la sexploitation italienne. Et ces trois-là, le spectateur, même s'il n'a pas très bien compris le titre « Les sorcières du bord du lac », il se dit que quand même, ces trois filles-là, c'est pas net-net. Mais le gars, il lui faut un bon petit déjeuner avec des gâteaux à la crème, et il n'en faut pas plus pour qu'il reste. Alors, ce qui est très très bien dans le film, c'est qu'il y a cette esthétique années 70 qui fuse partout. Les sièges sont oranges, il y a des espèces de grandes photos, chaque sorcière a sa chambre, et il y a un grand portrait en noir et blanc d'elle au pied du lit, etc. Donc il y a cette espèce d'imagerie-là, et en même temps, il y a un château à côté qui est hyper gothique, et on convoque quand même Satan. Et d'un côté, on fume de la Marie-Jeanne, et il y a ce côté à des 70, et de l'autre, on regarde du côté Bava Hammer, et c'est cette espèce de télescopage sous forme de conte. Alors on vous met sur la jaquette que c'est Hansel et Gretel version adulte.
Oui, ça fait toujours.
Ça fait toujours. Ça fait toujours l'affaire. Mais bon, c'est une vraie curiosité, avec un travail sur la couleur pas mal du tout. Et donc, c'est une curiosa qu'on peut remercier Montparnasse de nous offrir.
Très bien, connaissiez ce film, Monsieur Fausto?
Je le connais de réputation, mais je l'ai jamais vu, en fait. Donc, je vais me ruer sur le DVD pour le découvrir. Et surtout que c'est très intéressant, parce que je pense que ça participe du démontage, en fait, du mythe hippie, en fait.
Complètement.
Voilà, sous un angle assez violent, ouais.
Il y avait comme, on fera un jour une émission, l'anniversaire de 68 se profile, on pourrait faire une émission sur le hippie noir, alors on est parlé de Manson, en long, en large et en travers.
L'ange de l'hippie noir, hein, pour le coup.
Et, hein?
L'ange de l'hippie noir.
L'ange de l'hippie noir, et on pourrait faire, il y avait ce film célèbre, ça s'appelait La Secte, je crois.
Oui, absolument. Il y avait aussi un autre film italien qui m'a un petit peu rappelé ce que disait Philippe en parlant des sorcières du bord du lac, c'est Avoir 20 ans de Fernando Di Leo. Bon, là, c'est sous un angle féminin.
Extraordinaire. Mais alors, voilà. Moi, je serais pour qu'on fasse Avoir 20 ans dans sa version uncut.
Exactement.
Qui est absolument incroyable. Messieurs les éditeurs français.
Un bel inédit.
Il faut absolument nous le... Moi, j'ai une copie pirate sans sous-titres, mais c'est vraiment éblouissant.
Voilà, messieurs les éditeurs français, nous sommes armés et résolus. Donc, nous voulons une box, Fernando Di Leo. Merci, messieurs. Maintenant, c'est à vous, Sixtine. Vous allez nous parler donc de David Lachapelle, qui vient d'être honoré par les éditions Taschen d'un de leurs formidables publications. Deux grands volumes où il y a à peu près quoi.
Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, deux énormes bréviaires qui sortent donc chez Taschen, des œuvres qui sont résolument catho-queer. Donc, deux gigantesques retables luminescents. Alors, d'une première part, vous avez un panneau rose avec une espèce de fée Barbie Fairytopia qui est en fait Miley Cyrus transfigurée. Donc le premier opus qui est intitulé Lost and Found et qui revient sur 30 ans de carrière de l'artiste et sélectionne ses meilleurs clichés. Et d'autre part, vous avez un panneau bleu avec une sorte de beau minois christique, des boucles brunes angéliques qui sont comme couronnées de muguet et qui est titré très sobrement Good News. Hein. Tout le monde sait que ça vient de Evangelion, donc en grec, l'évangile, la bonne nouvelle. Et dans lequel vous trouvez son travail plus récent, celui qu'il a constitué depuis son retrait dans sa ferme bio et donc sa décision de n'être plus un photographe de magazine, puisque Lachapelle, de fait, on le connaît comme photographe de mode.
Présentez-nous un peu le bonhomme.
Qui a contribué justement à mainstreamiser cette esthétique fluo, ces couleurs lisses et brillantes qui sont associées finalement au fantasme de la marchandise arc-en-ciel, mais aussi en les mêlant avec cette surenchère de motifs qui sont qualifiés de kitsch et de mauvais goût, cette débauche de paillettes, de fleurs, de perles, d'animaux cute, et ce jeu avec les intertextes religieux, depuis le christianisme jusqu'à l'hindouisme, qui l'inscrit dans une lignée d'artistes proche de celle de Pierre et Gilles ou Gilbert et Georges. Et c'est deux traits majeurs qui vont contribuer à former l'esthétique que Suzanne Sontag a théorisée comme l'esthétique camp, donc un mot qui vient de camper, c'est-à-dire prendre la pose au sens de faire semblant. Un terme qui est étroitement lié à l'imaginaire gay, mais qui en fait est largement partagé, en fait, une esthétique largement partagée par les productions de la culture médiatique, justement parce qu'elles vont surcoder les traits de la féminité ou de la virilité, depuis les comédies musicales jusqu'aux pubs de parfums pour hommes. Donc cette perfection des corps chez Lachapelle, ces couleurs éclatantes, tout cela est d'emblée, mine d'emblée plutôt le beau, parce que par le côté too much, et on n'est pas vraiment dupe de ce qu'on va adorer, c'est plutôt une fascination consciente pour le spectacle et un amour de l'artificialité qui va permettre de prendre finalement une distance ironique, une distance qui permet de négocier aussi avec la tradition, la norme et le canon. Alors tout le monde me dit Lachapelle, c'est pas très mauvais genre, cette surversion, elle est plutôt convenue.
Mais ce qui compte, c'est d'avoir un regard
depuis
mauvais
des
genre
années, on voit ses images dans les magazines et son art est lui-même envisagé en termes de productivité. Bref, en fait, ce sont des critiques qu'on adresse de manière générale au marché de l'art contemporain et à des artistes comme de fait Jeff Koons et Damien Hirst qui misent sur le vulgaire, le clinquant, la nudité porno-chique, le scandale, des arguments vendeurs pour toucher un public large et produire en fait ce qu'on pourrait appeler des blockbusters de l'image ou de l'art. Et je pense que c'est justement parce que Lachapelle est le médiateur et se fait le médiateur, l'intercesseur d'un art moyen qui est honni par les classiques mais qui est aussi refusé par les gens qui sont plus rebelles, qu'il est justement mauvais genre. Et donc, si jamais ça vous intéresse, si vous êtes à Lyon le vendredi 9 janvier, je donnerai une conférence sur la figure de Vénus.
Plutôt.
9 février, oui, tout à fait, pardon.
Tous à Lyon le 9 février.
Sur la figure de Vénus dans les photographies pastiches des tableaux de Botticelli de David Lachapelle.
Ah oui, vous avez fait un travail universitaire
tout à fait
renommé sur cette question.
Et donc, ça sera à partir de 18h à la Bibliothèque municipale de Lyon. Et c'est dans le cadre du séminaire de recherche anti-K-pop, dont je vous dis rapidement quelques mots. C'est un séminaire qui réfléchit à l'utilisation des éléments antiques dans la culture populaire contemporaine et vous pouvez retrouver en ligne leurs publications et à signaler aussi des séances à venir sur les jeux vidéo notamment.
Très bien, merci. Sixtine, vous connaissez David Lachapelle?
Oui, bien sûr.
Non, non, au sens où... Ce que je voulais dire, la véritable question était, quelle est la place de David Lachapelle, on peut dire, dans le cinéma
qui nous est cher. Très récemment, j'ai vu un film qui pourrait se rapprocher par certains aspects de son travail. C'est un film qui s'appelle Florida Project, qui en tout cas, en termes de graphique, de lumière et d'exhibition de couleurs fluorescentes, etc., rappelle un petit peu ce que fait David Lachapelle, ouais.
Merci Sixtine Audebert. Donc 9 février à Lyon au Musée des Beaux-Arts pour votre...
Non, à la Bibliothèque Municipale.
À la Bibliothèque Municipale. Bon, au musée. Le 9 février à la Bibliothèque Municipale pour cette conférence à 18h. Merci à vous. L'émission se termine bien évidemment avec le Maître Beer.
Ingo Strecker voue une folle passion pour les acteurs en costume de gorille, ces éternels uncredited d'Hollywood auxquels il consacre Gorilla Wood, superbe et nostalgique somme publiée en allemand sur les meilleurs de cette discipline, transpirant au risque de s'étouffer dans leur lourd déguisement dès les années 20. Ainsi, Ray Crash Corrigan, athlète d'1m88 et doublure de Johnny Weissmuller, se spécialise dans les gorilles menaçants, déployant ses bras poilus et une férocité monolithique qui convient aux séries B d'épouvante. Immigré philippin, maquilleur, esthète et sculpteur, Charles Guémora construit ses propres défroques, plus perfectionnés que ceux de la société Max Factor qui truste tous les Tarzans. Ils sont en plusieurs parties, fixés avec des scratchs, pourvus d'extensions aux bras, en longs poils épais de yak. L'armature métallique du masque est un stupéfiant accessoire de torture faciale, mais les trous oculaires s'ajustent à la perfection et autorisent des gros plans troublants. Le méconnu The Monster and the Girl, réalisé en 1941 par Stuart Eisler, est son meilleur rôle. George Zucco y transplante le cerveau d'un faux coupable condamné à mort dans le corps d'un gorille. L'exécuté ainsi ressuscité n'aura de cesse de faire éclater la justice et laver son honneur. Jamais gorille ne fut plus mélancolique et neurasthénique. Sous la bête, la conscience d'un homme maudissait la cruauté d'un scénario absurde. Jusqu'aux années 60, il y avait du travail pour ces gorilles. Des jungles de studio, des comédies burlesques, des drames circassiens. Mais plane aussi l'ombre expressionniste d'un gorille déchu, Emil Van Horn, sur lequel l'auteur lève enfin le mystère. Gorille de music hall, assurant des entractes de cinéma, des tournées défeuilleuses et des numéros de nightclub new-yorkais, dépoitraillant ses partenaires d'un coup de patte étudié, il périclita dans la figuration, échoua à la Nouvelle-Orléans, mit en gage le costume de sa vie à une logeuse qu'il ne pouvait plus payer et se clochardisa. Les plus belles danseuses du burlesque, les sérioles exotiques de la République, le labo monogramme de Bella Lugosi, les blagues de W.C. Fields... Tout cela n'était plus qu'anecdote racontée dans les bars en échange de quelques bières. Il mourut dans un dispensaire. On ne retrouva jamais son costume de gorille. Seule l'armature faciale ressurgit, rachetée pour $50. Ingo Strecker sait tout cela, remarque l'évolution d'un costume au fil des tournages, reconnaît souvent un acteur par sa simple gestuelle, recense toutes les apparitions sur plus de 500 pages illustrées. Ingagi, Nabonga, Rango, Taglat, Eric, Mongo, Sheila, Samson, Konga, Pongo, Zamba, Spanky et Goliath, ils sont tous là et rugissent de joie.
Merci Christophe Beer pour apprendre à parler le Christophe Beer ou le parler le gorille de cinéma dont on vient d'avoir un très bel échantillon. Vous êtes tenté ou...
Oui, d'autant qu'on a un certain nombre de films comme Nabonga qu'on peut voir chez Backfilm. Hein, je crois qu'on en avait parlé ici même à Mauvais Genre. Il y a toute une édition DVD du film de gorille et du film évidemment de série Z tout à fait intéressante. Donc en marge de ce livre qu'évidemment je vais me procurer comme tous nos auditeurs, il y a de quoi voir.
Merci madame, merci messieurs. Je rappelle les sujets traités ce soir à Mauvais Genre. Nous avons ouvert le feu avec Parole de Lapin, les grands entretiens du magazine Playboy aux éditions du Sous-Sol. Il a ensuite été question d'opéra de Dario Argento, tel que livré dans une superbe édition par le Chat qui fume. Et nous avons enchaîné brillamment sur La planète des vampires de Mario Bava, magnifiquement édité par l'Arabia et M6 Vidéo. Et ensuite, quelle fut pas notre joie d'entendre Sixtine Audebert nous parler de David Lachapelle à propos de Last und Freund Good News, donc les deux volumes édités aux éditions Tachon, toute l'équipe de Mauvais Gens, Laurent Paulret, Claude Nior, Siam Boutata, Claire Martin Duguerre, Céline Duchesnay, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Bir et François Angelier vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale Angoulême 2018. Et d'ici là, bonne nuit à tous. Don't judge me.